Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, entre les poteaux,
Christophe Cessieux.
Salut à tous, Toulouse est à nouveau sur le toit de l'Europe, d'où il regarde ses nombreux adversaires français et britanniques qui depuis 25 ans et la création de la Coupe d'Europe de rugby ont subi la loi de fer du stade. Toulouse, on le sait déjà, est le plus grand club français, son palmarès en témoigne. Il est peut-être aussi le plus grand d'Europe et entend bien le rester, on en débat dans un instant entre les poteaux. Une 5e étoile arrachée de haute lutte face à une équipe rochelaise hyperactive, agressive et pleine de jus, un peu trop sans doute, en étant privé de Botia dès la demi-heure de jeu sur carton rouge. Ils ont hypothéqué leur chance de remporter enfin un grand titre. Un rouge tout à fait logique. En revanche, M. Pierce, l'arbitre anglais, n'a pas appliqué la même logique pour une faute quasi similaire commise cette fois-ci par un Toulousain. Alors, arbitrage à géométrie variable, c'est ce que laissent entendre certains Rochelais. On en débattra. Quant au frelon du week-end, il est montpelliérain et sud-africain. Se nomme Johan Goossen, un drôle de loustique, au talent fou mais au comportement décousu. On vous dressera le portrait de ce garçon surdoué qui quittera le top 14 pour entrer dans son pays dans quelques semaines. Tout de suite, place à la finale. Un match qui a accueilli des spectateurs dans le temple de Twickenham, un match tendu, physique, violent, qui a donc vu le 5e succès du Stade Toulousain dans la plus grande compétition européenne de rugby.
Épilogue de cette saison européenne, les deux meilleures équipes sont là et elles sont françaises. Une 5e étoile pour Toulouse, la première des Rochelais, les réponses dans 80 minutes. C'est parti! Ouh le tampon! Ouh là là, Maxime Médard reste au sol, il est KO! Ouh là 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 là! Carton rouge pour le 3 quarts centre fidjien, Levani, Botia, et le plaquage loupé! L'essai de Malia et du Stade Toulousain! On envoie le ballon peut-être sur l'extérieur, essai de Carbarlo! Le conteste! Oh, il demande de lâcher la balle, il avait pas, et Toulouse dégage! Et Toulouse est vainqueur de la Champions Cup 2021, Toulouse est champion d'Europe.
Voilà, Toulouse à nouveau champion d'Europe, une 5e étoile qui vient s'ajouter donc sur le maillot des tauliers du rugby club européen. Nos poteaux à nous n'ont pas autant de décorations, ni même d'étoiles. Denis, combien d'étoiles de champion de France portes-tu fièrement à la boutonnière ?
3, mais c'est très très longtemps.
Ouais, mais c'est pas grave,
oui,
ça reste à jamais,
bien sûr.
Vital,
oui,
mon cher ami.
Bien sûr.
Nos loustiques à nous, Wilfried, Jeff et Pierre, je vais même pas leur poser la question.
On en a 3 de moi, en fait.
Parfait, voilà, Wilfried. Hein. Mais je suis sûr, en tout cas pour Wilfried et Jeff, qui préfèrent largement avoir été autorisés à commenter ce match depuis Twickenham, plutôt qu'une étoile qui aurait fini dans la cave, hein, n'est-ce pas Jeff ?
Oui, on était bien mieux là-bas. Pour une fois, quand les Anglais nous reçoivent gentiment.
Pour une fois que vous êtes débarrassé de Denis, en plus, vous n'aviez pas le pansement à prendre.
Double joie, quoi. Il arrive.
On avait bien œuvré auprès de la direction.
J'aurais bien voulu voir Denis Charvet faire un autotest Covid. C'est le seul truc qui m'a manqué.
Ah, l'autotest Covid.
Fallait se le faire.
Alors, ça coûte 210 livres pour faire deux tests, parce qu'il faut en faire deux, réserver deux. Vous le faites tout seul, vous réservez dans un labo.
Mais Jeff, il est moins débile, il fait semblant de se le faire. Moi, j'ai été jusqu'en haut, là, et j'ai éternué comme un fou.
Moi, je l'ai fait dans la bouche et après dans le nez avec le même coton-tige. Et j'entendais Wilfried à côté qui était éternuer tout seul.
Wilfried, il l'a fait à la chinoise. Ouais, ouais.
Ça aurait pu à Denis.
Alors, on va revenir évidemment sur ce titre toulousain, une 5e étoile. Pour une 5e finale remportée, sans oublier les deux perdus quand même. Ça arrive aussi, même au Toulousain. Samedi soir, ça n'a pas été une partie de plaisir pour Dupont, Caïno et les autres. Sérieusement bousculé même par le challenger. Mais au bout du compte, et comme aurait pu le dire Gary Lineker, le rugby est un sport qui se joue à 15. Et voilà, fin, c'est toujours ou presque Toulouse qui gagne. Il aurait pu ajouter, avec les mêmes ou leurs descendants, hein, les vainqueurs du premier trophée, celui de 96, sont toujours dans le coup, devenus président, manager, coach de la maison Rouge et Noir, une maison qu'on a beaucoup de mal à quitter. Et puis il y a aussi le sang qui parle. En 96, le capitaine toulousain se nommait Mylène Tamac. 25 ans plus tard, c'est le fiston Romain qui, par ses coups de pied précis, a en grande partie offert le titre à ses équipiers et à son club. On l'écoute.
Ça a été dur, il n'y a pas de finale facile, il n'y a pas de belle finale. Celle-là, elle ne va pas marquer les annales au niveau du jeu, mais voilà,
l'essentiel c'était la victoire, peu importe la manière, une finale ça se gagne et aujourd'hui on a la chance de la gagner, donc c'est incroyable. J'ai vraiment pas beaucoup de mots, mais c'est exceptionnel. C'est très dur à réaliser, c'est vrai que là aujourd'hui on est champion d'Europe, mais je pense qu'on réalise pas encore ce qu'on a fait, qu'on a un peu plus écrit l'histoire de notre club, et c'est assez difficile de réaliser sur le moment, donc on réalisera plus tard, mais en tout cas au vu de l'émotion à la fin, on est très fiers de ce qu'on a fait.
Romain Ntamack, très fier de ce qu'il a fait, la filiation Ntamack, ouais. Et puis on rappelle que le président toulousain a été du titre en 96, que Hugo Mola, le manager, était aussi du titre en 96. C'est incroyable quand même de retrouver 25 ans plus tard les mêmes Denis. Manque que toi,
ouais,
finalement.
Non, mais on peut parler de transmission à ce niveau-là. C'est vrai que dans le temps, ben, ça perdure et ça continue. Et on transmet des valeurs, on transmet un ADN de jeu aussi. Alors même si là, en finale, c'était pas un jeu abouti, c'était pas une grande performance à Toulousain, mais en même temps, voilà, je crois que le fait d'avoir ces anciens joueurs autour de l'équipe première, ça fait du bien et puis ça rassure aussi.
Mmh. Bref, il n'y a plus à tortiller, messieurs. Hein. Toulouse est bien le plus grand club de rugby européen, voire de la planète. Hein. Ça valait bien une entrée en métier. En mêlée. Le Stade toulousain, devenu en 104 ans d'existence une véritable institution, il est évidemment le club français le plus huppé, le club européen le plus victorieux, une institution qui a connu une passe un peu compliquée il y a quelques années, ça même ressemblait à une sorte de crise, Wilfried. Aujourd'hui, cette crise a disparu et les succès sont revenus en force, tout comme les joueurs de grand talent formés en grande partie dans la maison rouge et noire. Ce club toulousain n'a tout simplement pas d'équivalent dans l'Europe du rugby. C'est un modèle quasi unique, Wilfried.
Ouais, c'est une machine à gagner, des hommes qui passent et un patrimoine qui reste, on va dire, auquel ces hommes ajoutent année après année des petites briques. Voilà comment on construit au fur et à mesure du temps, en se passant à la fois le témoin et un certain savoir-faire, hein, ce qu'on peut appeler le plus grand club, tu l'as dit, car sur le plan de l'Europe, avec ce cinquième titre européen, le Stade toulousain toise désormais le Leinster, quatre trophées, où les Saracens et Toulon qui en ont trois, alors qu'en France, aussi soit prestigieux ses concurrents, aucun n'arrive à suivre le rythme, hein, 20 boucliers de Brennus, quand le Stade français en a par exemple 14, et les supporters des clubs adverses peuvent soupirer ou lever les yeux au ciel, hein, parce que c'est peut-être pas fini, ce cercle vertueux de l'excellence, on va dire, mais surtout de l'exigence, parce qu'on gagne pas autant par hasard, hein. Exigence qui portait le visage de René Bouscatel et Guy Noves avant, grand artisan de ce palmarès, et qui s'est transmis maintenant à leur successeur, Didier Lacroix, Jérôme Casalbou, Hugo Mola. Il fallait faire vivre une transition, que ce soit chez les dirigeants, le staff ou sur le terrain, entre deux groupes. Hein. Le Stade Toulousain l'a vécu, ça, en 2017, avec une 12e place au classement, mais il a digéré et est revenu tout en haut, 2 ans plus tard, avec un titre de champion de France. Et maintenant, pour entretenir cette hégémonie, à l'arrière de leur camion Stade Toulousain, ils ont à disposition une génération de pur sang qui va donner des maux de tête à ceux qui, comme eux, lorgnent sur des trophées. Les Bailly, Marchand, Cross, Tolofoa, Dupont, Ntamack, Ramos, Lebel, ils ont pris le leadership, ils ont même pris le pouvoir en équipe de France pour certains, avec quelques étrangers talentueux de leur club comme Faumouina, les frères Arnold, Aki, Colby, Keino. Ils ont clairement le cause de favori. Il va falloir être fort pour leur tenir tête, même si le Stade Toulousain maintenant une meute de concurrents à ses trousses. Et prochain objectif, messieurs, c'est le doublé Coupe d'Europe, top 14, dans un mois.
Dans un mois, donc, pour la finale du top 14, on en reparlera de ce top 14 dans quelques instants. Messieurs, est-ce que vous voyez un club arriver à la cheville du Stade Toulousain? En France, pas vraiment. En Europe, est-ce que les provinces irlandaises, qui ont un modèle un peu différent, vous semblent à la hauteur? Est-ce que les clubs différent. Anglais, les Saracens, etc., tout ça?
Oui, Saracens, on le voit, ils ont eu le contre-coup quand même de cette période difficile il y a 2 ans.
Ouais, et ils n'ont pas triché, non.
Oui, ils ont triché, non, mais je veux dire, ils avaient quand même les joueurs, hein, sans parler de rentrer dans les détails du financement, du salary cap, ils avaient quand même des joueurs exceptionnels. Donc au niveau de la qualité purement sportive, le Saracen, c'était l'équipe qui pouvait
Et ce qui est fort, c'est que le Stade Toulousain aussi, Wilfried en parlait, a le top 14, le championnat de France en tête, sans manquer de respect à ce qui se passe en Ligue Celt, le Leinster, leur priorité tous les ans, c'est la Coupe d'Europe.
Oui, voilà.
Le Stade Toulousain, leur priorité, c'est le top 14 et la Coupe d'Europe, les deux objectifs. Ouais,
attention à pas faire de raccourci non plus, le Leinster gagne quasiment systématiquement aussi la Ligue Celt.
Oui, mais c'est pas le même niveau.
Et vu le palmarès,
oui,
c'est
beaucoup plus tourné. Hein,
attention, le niveau de la Ligue Celt a vachement augmenté. Ouais. Depuis 5 ans. Non, mais il faut regarder les matchs. Là, le niveau de la Ligue Celt aujourd'hui, quand il y a des Leinster, Munster ou l'Ulster qui jouent, ils mettent pas des équipes de minots. Ils mettent les meilleurs possibles,
oui, parce
qu'aujourd'hui, ça a aussi un intérêt.
Concurrence.
Mais
il
la qualification n'est plus automatique.
Ulster, Munster.
Mais c'est pas la même chose. Cardiff, Glasgow, aujourd'hui, c'est des bonnes équipes qui sont en quart de finale de Champions Cup. Je dis pas que ça vaut le top 14. Je dis simplement qu'on peut pas simplement dire le Leinster mise tout sur la Coupe d'Europe et envoie les pimpins jouer la Ligue Celt. C'est une équipe qui s'est forgée et qui a un palmarès aujourd'hui sur 10 ans plus important que le Stade Toulousain.
Mais il joue beaucoup moins que le Stade Toulousain. Si tu ne veux pas comparer le club avec une province irlandaise,
c'est une sorte de sélection. Est-ce que ce sont ces provinces qui forment les joueurs? Parce que Toulouse forme en plus ses joueurs aujourd'hui.
Oui.
Dans l'équipe qui a remporté cette cinquième étoile.
Non, je pense que c'est
les clubs, joueurs qui ont été formés au Stade.
Il y a les deux à Toulouse. Et Wilfried l'a très bien dit. Aujourd'hui, les leaders de jeu, c'est aussi Keino, Aki, Colby.
Ça mélange savant des deux.
Fomuna, c'est quand même aussi, c'est pas uniquement des gamins du cru. Et puis les Français qui ont été recrutés aussi. Dupont, il n'a pas été formé à Toulouse.
Ce que je voulais juste dire, Pierre, c'est que quand on regarde toute la saison du Leinster et du Munster, avant les matchs de l'Irlande au tournoi, ils font tourner, les joueurs jouent pas. Avant les matchs des finales, demi-finales de Coupe d'Europe, ils ne jouent pas en Ligue Celt, alors que le Stade Toulousain et les autres clubs français doivent batailler. Mais alors, des fois, ils font tourner, mais beaucoup plus pour se qualifier en phase finale.
Vous pouvez pas comparer. Je pouvais pas comparer. C'est pas possible. Vous pouvez comparer avec les Anglais. Les Anglais qui ont des vraies entités, des vrais clubs, c'est pas pareil. Donc,
mais alors, si on compare avec les clubs anglais, on se rend compte que Toulouse est inscrit sur la durée. Alors qu'en Angleterre, tu as eu effectivement des clubs très forts, les Saracens, mais avant, tu as eu les
Bass,
le Queens, il y a longtemps. Exeter, aujourd'hui Bristol, mais ça dure pas, ça s'inscrit pas dans la durée comme le Stade, messieurs.
Ah, c'est le grand mérite du Stade Toulousain, c'est le grand mérite. Hein. C'est d'être dans les années 80 avec Denis, là, les champions de France, dans les années 90, devenir champion d'Europe, avoir des titres de champion de France, 4 de suite, dans les années 2000, Coupe d'Europe 2003, 2005, 2010, et maintenant, ça continue. Ils ont fait 2011-2012 champion de France et ils reviennent en 2019 champion de France et 2021 champion d'Europe. Ça fait 40 ans.
Oui, mais ça n'a pas empêché.
De gagner, c'est une chose, Denis. Gagner dans la durée, c'est autre chose.
Oui, mais il faut parler de cycle aussi. Regarde le Stade Toulousain. Avant les années 80, c'était très compliqué. C'était, il n'y a pas eu de titre. Le premier, c'était mon oncle joué dans 47. Moi, après, on est redevenu champion en 85. Donc, je suis bien placé pour le savoir. Et après, il y a eu ce petit creux en 2012-2019. Donc, c'est vrai que depuis 30 ans, il y a une transmission, je pense, au niveau de l'encadrement, on en a parlé tout à l'heure.
C'est un cycle long.
Non, mais je pense qu'il y a eu un respect de l'institution qui a fait que Didier Lacroix, il a repris le flambeau derrière René Buscatel. C'était très compliqué. Tu aperçois que c'est l'homme de la situation. Il s'est entouré de Casalbou, de
tous les anciens.
Thomas Castagnier.
C'est l'histoire du club.
C'est l'histoire du club. Il a refait l'histoire, mais ils sont repartis comme avant, quoi. Et ça perdure, tant mieux pour eux.
Alors, si Toulouse reste le plus grand, les stars d'Ernest Vallon ont quand même été secouées sévères ce samedi par la puissance et la détermination rochelaise. Une finale qui aurait pu tourner différemment sans le geste impardonnable de Botia. Ce plaquage au cou sur Médard qui lui vaudra un carton rouge, faute grossière, qui condamne ses équipiers à jouer à 14 pendant près d'une heure. Et ça finira évidemment par avoir des conséquences en termes de fatigue. Messieurs, le rouge est logique. En revanche, la faute est presque une faute professionnelle. On n'a pas le droit de faire ce genre de faute dans un match aussi important. Alors, Denis, comment tu l'expliques?
Est-ce que c'est le
manque d'expérience?
Non, pas du tout. Je vais t'expliquer.
Ou alors la façon de jouer de Botia.
C'est très simple. Bon, un peu réfléchi. Tu l'expliques par la culture qu'ont ces joueurs fidjiens de tout temps. C'est des joueurs qui ont plaqué comme ça. Moi, je les ai joués plusieurs fois. C'est dans leur culture.
Ta tête sur les épaules.
C'est dans leur ADN de défense. C'est-à-dire qu'ils sont formatés comme ça, et malheureusement pour eux, ils n'ont pas évolué. Ils n'ont pas évolué par rapport à la règle qui est maintenant, mais qui est intransigeante, on le sait. Lui, au lieu de se baisser, tu imagines s'il se baisse, je pense qu'il le fracasse, mais je pense que Médard, il ne revient pas. Il revient pas sur le terrain.
C'est ce que disait Richard Daut l'autre jour, s'il le prend au foie, il ne se relève pas du tout. Hein.
Mais quand on connaît l'importance des détails en finale, la discipline, c'est le maître mot. Comment même les dirigeants, les entraîneurs de La Rochelle ne le disent pas? Quand tu sais que c'est un récidiviste quand même, c'est pas un joueur qui est neutre à ce niveau-là. Il a déjà fait des cartons rouges. Il a eu des jaunes, mais des jaunes, il était toujours borderline. Mais quand tu vois le joueur que c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui sort, c'est le mec qui tient le milieu de terrain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il sort, Toulouse, il y avait deux joueurs sur lui. Il se polarisait sur lui. Il y avait deux, trois joueurs qui se polarisaient sur ce joueur. Il sort, c'est fini. Et en plus, c'est un gars qui plaque 15 mecs par match. Tu sors.
Et il a 32 ans, il a l'expérience.
Alors, on se posait la question avant le match de savoir si l'expérience toulousaine allait jouer et si les Rochelais n'allaient pas surjouer justement du fait de leur manque d'expérience à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez que ils sont quand même arrivés
à. Je rejoins Denis, le fait que ça arrive à Botia, je pense que c'est pas anodin en fait. le fait non, que ce soit lui.
Bien sûr que non.
Et le reste de la performance de La Rochelle, il n'y a pas une indiscipline criante par rapport à celle du Stade Toulousain, non. Si je ne dis pas de bêtises.
Non, ça se voit. Ils se font sanctionner. Non, mais c'est sur les détails. Beaucoup, voilà, tu ne peux pas te prendre rouge, c'est impossible. Voilà, là, après. Tu peux pas refaire l'histoire, tu peux pas refaire le match, sachant que lui, tu vas pas l'avoir jusqu'à la fin de la saison, parce que c'est, oui. Tu perds le titre de champion d'Europe, mais tu perds ce joueur-là jusqu'à la fin de la saison.
S'il prend 5 semaines, c'est fini pour lui.
Même 4, hein, c'est possible.
Même 4.
Mmh. Oui.
Si, pas, vu que c'est un nombre de matchs.
Les Rochelais, tu aurais pu, eux aussi, espérer quelques coups de sifflet favorables de la part de M. Pierce, l'arbitre anglais de cette finale, oui, mais il n'en a rien été, d'où le dépit, vous allez entendre, de Geoffrey Doumerou, le centre Rochelais. Colère contre l'arbitrage de M. Pierce, selon lui, à géométrie variable, on l'écoute interrogé par nos confrères de beIN Sport.
Ça a bien tourné pour eux, je ne vais pas en dire plus parce que je suis vraiment déçu. Il y a des mêmes actions des deux côtés qui ne sont pas arbitrées de la même manière, c'est hallucinant à ce niveau-là.
C'est hallucinant.
Le problème. Là. Alors, pendant le direct, alors, j'étais sévère.
Deux minutes, parce qu'on va en engager la mêlée et on va surtout ouvrir la boîte à gifles.
On va la relever.
RMC, entre les poteaux, la boîte à gifles.
Voilà, on vient de l'entendre, Geoffrey Doumerou et les Rochelais étaient frustrés au sortir du match. C'est souvent le cas dans le cas des perdants. Il y a toujours des choses à redire sur l'arbitrage d'une telle rencontre. Les Rochelais, Wilfried, qu'il faut le préciser, ne remettent aucunement en cause le carton rouge infligé à Botia, mais d'autres décisions et non-décisions, surtout de l'arbitre anglais, qui leur sont en revanche restés en travers du gosier.
Voilà, alors ce que je veux vous dire en préambule, c'est qu'on sait que c'est très difficile d'arbitrer, que les arbitres sont des hommes, et comme les joueurs sur le terrain, ils peuvent faire un moins bon match, comme ça arrive aux journalistes, ayant la lucidité de le reconnaître, de dire une connerie. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi je l'ai exprimé après le match sur les réseaux, je trouvais qu'avec Luc Pierce, on a parfois des choses à redire. C'était le cas, souvenez-vous, lors du dernier France-Pays de Galles. Alors, revenir sur son arbitrage, c'est un exercice difficile, on va essayer de le faire de manière constructive. Hein. Moi j'ai donc visionné à froid le match, pardon, et voici ce que j'ai relevé dans un sens ou dans l'autre. On va distinguer 5 moments où il nous a semblé que Pierce s'était trompé, une fois en défaveur de Toulouse, 4 fois entre guillemets en défaveur de La Rochelle, et on écarte bien sûr le carton rouge de Botia, hein, qui souffre d'aucune contestation, bien au contraire. Je vais même donner les minutes aux puristes s'ils veulent les noter et aller vérifier les images. On commence avec la 37e minute, il y a un coup de pied, souvenez-vous, le coup de pied à suivre de Romain Ntamack, face à lui il y a le géant Skelton qui se dresse, mais ne bouge pas, franchement ne bouge pas, hein, et Ntamack s'empale sur lui. Pénalité, qui fera d'ailleurs sourire certainement jaune Skelton au moment du ralenti sur les écrans géants. 3 points qui ramènent Toulouse à 9-9 à ce moment-là. Skelton ne bougeait pas à ce moment-là, il s'était arrêté. 2 minutes plus tard, juste avant la pause, Antonio est plaqué par Cross, et il y a un contest tout à fait valable de Tecori, c'était juste avant la mi-temps, vous vous souvenez. Pas selon Luc Pierce qui le sanctionne, alors qu'il n'y avait pas faute du tout. 3 points de West et 12-9 pour La Rochelle à la pause. En deuxième mi-temps, il y a 3 moments chauds, et celui qui a fait le plus parler, messieurs, c'est à la 42e minute. Aldrit lancé et plaqué haut par Pitaaki. On l'a revu image par image et la zone de son épaule est en contact, on va dire, avec la glotte du Rochelet, qui relâche son effort en fait et se fait arracher le ballon, car sur le moment il hurle quelque chose à Monsieur Pierce, Aldrit. Dans les secondes qui suivent, la Rochelle a bien la pénalité parce que Bourgarit avait suivi et a été récompensé d'un contest, et West la loupe, cette pénalité du potentiel 15-9. Mais on n'aura jamais la réponse de savoir quelle influence aurait eu un carton jaune pour Aki. Ce n'était pas rouge, comme pour Botia, qui a touché la zone du visage de Médard. Mais pour nous, et selon un arbitre que j'ai consulté, ça valait jaune. Ensuite, il n'y a rien sur le duel aérien où le Rochelet Boudéan se blesse. Mathis Lebel jouait le ballon, vous souvenez aussi, hein, quand le jeune Boudéan se blesse de La Rochelle. Pierce a été toutefois un peu sévère quand à la 69e minute, il y a Retière qui relance un ballon. Il est plaqué par Cross qui, dans son mouvement, il emporte aussi le deuxième ligne, Lavaux. Lavaux, il tombe au sol, mais il ne fait rien et l'arbitre le sanctionne pour pas être resté sur ses appuis. 3 points de Ntamack qui porte le score à plus 10 à 22-12. Et enfin, dernier moment, le clou de sifflet de Luc Pierce à la 79e pour arrêter le jeu, car le Toulousain casse-tête s'est blessé au moment où Aldrit avait mis ses mains sur un ballon dans le ruck. Une phase de jeu qui méritait probablement pénalité et que les Rochelais auraient converti en pénal touche à la toute fin. Le problème, c'est que Pierce, bon, alors il veut protéger casse-tête, c'est juste derrière, mais il a laissé 4 temps de jeu avant se faire près de la zone où casse-tête était allongé, et sur le moment ça a provoqué l'incompréhension d'Aldrit, qui a longuement discuté avec Luc Pierce et a même été voir l'arbitre assistant Mathieu Carlet. Voilà pour le bilan détaillé de ce match.
Voilà, ça ça c'est du travail de professionnel. Bravo Wilfried. Et c'est pas évident pour toi, puisqu'on rappelle que ton cœur est à moitié toulousain et à moitié rochelais. Donc il a essayé d'être neutre dans ce cas-là. Pierre et Denis ne sont pas d'accord. Enfin, Denis, pendant le match, a été très véhément envers l'arbitrage de Monsieur Pierre. C'est ce que, avec le recul,
non,
tu
le
gardes...
Recul, j'écoute ce que dit Wilfried. Après, je pense que t'arbitres pas le Real Madrid comme t'arbitres une petite équipe de espagnole. En football, on le sait, et je crois que l'aura, le prestige fait la différence. C'est-à-dire que c'est dans l'inconscience. Je pense que c'est l'inconscience. L'arbitre n'a pas défavorisé La Rochelle, mais à un moment donné, il est pris dans un... Je sais pas, moi, je pense à ça, parce que effectivement, tout ce que dit Wilfried, notamment le carton jaune d'Aki, c'est jaune, c'est sûr et certain. Quoi. Il fait pas l'effort en plus d'aller voir la VAR, enfin il prend sa décision très vite. Mais après, bon, voilà, les Toulousains ont été héroïques en
alors
défense.
Alors que sur le carton rouge de Botia, il donne d'abord un carton jaune et ensuite... Ouais.
Ce qui est plus embêtant pour moi, c'est à la fin, sur effectivement, d'arrêter une action, c'est rarissime, j'ai jamais vu ça. Ouais. Et surtout à une minute de la fin.
Ça peut se faire.
Oui, mais... ça se fait, mais...
Alors, Denis...
Il l'a fait un moment que les Rochelais n'ont pas compris.
Voilà. Denis, le Toulousain, était plutôt sévère envers l'arbitre. Pierrot, le Rochelais, lui, pense qu'il n'y a pas eu de défavoritisme, je sais pas si ça se dit, de la part de monsieur Pierce.
Non, même t'es passé court.
Ouais, c'est passé fin.
C'est passé fin, ouais.
Non, je vais vous dire, ça met même en colère qu'on puisse en parler. Parce que aujourd'hui, un match professionnel, c'est 90 coups de sifflet minimum. Sur le excellent travail de Wilfried, on retient 5 moments. Sur les 5 moments, personnellement...
Mais c'est les moments clés, Pierre.
Non, c'est vous qui décidez d'en faire des moments clés. C'est simplement qu'aujourd'hui, un arbitre professionnel, il est seul contre 60 personnes, il doit assumer la tenue d'un match pendant 90 minutes, surtout à ce niveau-là, où chaque décision va être décortiquée, analysée, est-ce qu'il a eu raison, est-ce qu'il a eu tort. Le match, il se joue pas sur des décisions d'arbitre. Le match, il se joue sur les temps forts où La Rochelle n'est pas capable de marquer, sur les 8 points oubliés.
Ça, c'est
sur
sûr.
Donc, c'est là-dessus que la bascule se fait. Désormais, est-ce que Monsieur Pierce a fait un match parfait ? Probablement pas, mais aucun arbitre ne fait un match parfait. Il a fait un match quasiment parfait et surtout à la hauteur d'une finale de Champions Cup. Sur l'arbitrage vidéo, sur l'essai d'Arnold, au bout de 10 secondes, il dit on ne verra rien, on arrête, on repart au jeu. Je trouve ça formidable, nous sommes pleins pendant des heures sur l'arbitrage vidéo à outrance. Le carton rouge sur Botia, c'est pas lui qui le distribue. Lui, il veut pas faire appel à la vidéo, il met carton jaune, il lui demande de sortir. C'est son arbitre vidéo qui l'appelle pour lui dire attention, il y a un contact avec la tête, il regarde, il y a carton rouge, très bien. Sur la blessure de Castex,
est-ce que c'est pas l'arbitre vidéo qui ne signale pas.
Si, sur Aldridge, c'est l'arbitre vidéo qui dit qui donne son avis aussi sur Aldridge, sur le package au
donc Monsieur Pierce n'arbitre pas seul. Et puis on parle des contests, celui de Lavaux, en fait je vois très bien l'action, je crois qu'il dit en fait que Lavaux fait pas l'effort pour sortir, ce qui est impossible.
Par contre là il y a pénalité,
il se fait emporter Lavaux.
Non, il y a pénalité pour moi.
Tout ça pour plaquer par cross, il est à côté, il tombe et il peut rien faire.
C'est ça, il est pris sous, je crois qu'il a la jambe qui est prise dessous et il peut plus rien faire. Mais tout ça pour dire que l'arbitrage doit pas être parfait pour être bon, il doit être juste. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des injustices manifestes.
Non mais évidemment, moi là où je te rejoins, c'est qu'ils se punissent d'eux-mêmes, les Rochelais. Tu peux pas faire un match avec un buteur qui a 68% sur le niveau des stats de réussite toute l'année. Parce qu'il loupe 3 pénalités, mais il n'y a qu'à mettre les transformations, c'est fini, il gagne.
Geoffrey Doumerou avait bien les nerfs, ce qui est normal sous le coup de la déception. Mais est-ce que vous avez entendu beaucoup de Rochelais
après ? Non, aucun, on les a pas beaucoup entendu les Rochelais après. Hein,
est-ce que vous avez lu beaucoup de papiers dans les françaises et étrangères pour dire que
je n'ose imaginer ce qui se serait dit si La Rochelle avait été opposée à un club anglais ou à un club irlandais.
Ça aurait été la même lecture pour moi, mais pas pour tout le monde.
Moi, je pense que l'arbitre ne fait pas la différence sur le match du tout, mais que effectivement, La Rochelle a perdu la tête, et tout simplement, il a perdu le match.
Juste, Christophe, c'était important de faire cet éclairage et Jeff, t'as raison de dire ça. Il y a une dernière chose qui était, puisque les puristes nous écoutent, qui était signalée sur les réseaux sociaux, c'est la position de Vito sur les mêlées de La Rochelle. Il mettait un coup à gauche entre le troisième ligne et le deuxième ligne, un coup à droite, selon, en fait, c'est pas une histoire de pousser, c'est où le ballon arrivait, c'est pour mieux l'avoir dans son axe pour partir. Alors ça vaut pénalité, il a pas le droit de le faire, mais les arbitres au plus haut niveau, normalement, ils doivent le manager. Ils doivent lui dire qu'il arrête de faire ça. Ça se met très peu une pénalité pour ça, mais là, Luc Pierce l'a vraiment pas dit, il était concentré sur autre chose.
Si je dis pas de bêtises, Wilfried, je crois que c'est autorisé si une épaule est toujours liée. C'est-à-dire que techniquement, c'est très dur à réaliser.
On m'a dit que c'était pénalité, moi. Une fois que le ballon est introduit, il doit plus bouger.
D'accord, ok.
J'ai bien aimé ce qu'a dit Hugo Mola, il dit La Rochelle aurait été un très beau champion, mais le haut niveau ne permet pas le partage.
Mmh. Ils sont forts, les Toulousains.
Et Hugo, Mola qui a en revanche dit on a enterré Toulouse. Qui a enterré Toulouse
Hugo Mola qui disait exactement certaines personnes pensaient qu'on avait perdu le stade toulousain, le soldat Toulouse, ou qu'il était mort.
Qui pensait ça?
Il fait peut-être allusion à leur période de 2017, quand ils étaient 12e. Il remonte peut-être à ça.
Peut-être.
Ça commence à être un peu éculé, ces trucs de on dérange, les gens sont contre.
Ça fait beaucoup réagir, Pierre. Hein.
Mais il y a un peu de parano. Ils vivent en vase clos et parfois, il faut répondre. Mais Hugo, il est un peu sur le. Mais
c'est le même discours pour Toulouse, pour Toulon, pour Clermont. On nous déteste. Tout le monde veut nous voir.
Et Bordeaux avec
Christophe. C'est toujours la même chose. On a l'impression que c'est quand même la recette qui marche le mieux.
Il y a une victimisation maintenant.
C'est terrible.
Un match qui va probablement laisser des traces. Les corps ont été secoués et puis certains ont été sanctionnés, risque de lourdes suspensions. Je pense à Botia. Sans oublier les acteurs de la bamboche toulousaine qui a suivi le titre. Jeff, dans quel état sont les troupes en ce début de semaine? C'est important de le savoir car la saison est loin d'être fini pour les uns et les autres.
Ouais, j'espère que les joueurs du Stade Toulousain avaient acheté pas mal de bois de Doliprane avant de partir, parce qu'ils ont bien fêté ça depuis quelques jours, depuis samedi soir, à l'image notamment de Tékori et son fameux poteau de touche. Vous avez vu ces images, Tékori qui est parti avec le poteau de touche siglé Champions Cup de Twickenham, qui a pris l'avion avec et qui a fait toute la soirée avec aussi pour fêter ce moment. Mais c'est vrai qu'il va falloir s'en mettre au travail. Ce sera à partir de mardi après-midi pour le retour à l'entraînement. Un retour qui se fera évidemment sans Huguet, sans Guitoun. Placine est blessé, Holmes était blessé, Aldeguerri était blessé, surtout Julien Marchand était absent, ça on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'était une lourde perte pour le Stade Toulousain, qui sera encore absent pour la réception de Clermont samedi. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a de nouveaux blessés. Clément Castet qui s'est baladé avec des béquilles, qui est sorti de l'avion lorsqu'il arrivait à Toulouse en fauteuil roulant. Bon, il n'est pas paralysé, rassurez-vous, mais pour les
ça a l'air d'être ça a l'air d'être le genou sur les images, quand j'ai revu les images du match.
Et Richie Arnold aussi qui est blessé, ça c'est pas une bonne nouvelle. Toulouse, on le rappelle, est premier avec 73 points, qui reçoit Clermont et qui, la semaine suivante, va à Bordeaux pour la revanche de la demi-finale face à Christophe Furios, le meilleur ami d'Hugo Mola. Ça va pas être simple. Pour les Rochelais, eux, ils vont devoir vite se remettre au travail. Normalement, il y avait une séance vidéo qui est au programme. La séance vidéo a dû être savoureuse avec Jono Gims et Ronan O'Gara. Boudouan, on en a parlé, blessé à une épaule, qui rejoint Pierre Aguillon, notamment à l'infirmerie. Lévani Botia, s'il prend 4 matchs de suspension, ça peut être la fin de saison. Je vous parle pas de 5 matchs. Botia qui s'est d'ailleurs excusé sur les réseaux sociaux auprès de Maxime Médard. On rappelle, La Rochelle est deuxième avec 72 points. Réception de Pau, puis déplacement à Clermont, sachant que le Racing est pas loin et que l'UBB a un match en retard contre l'équipe Bisse de Montpellier demain. Ça va être très très chaud pour finir dans les deux premiers.
Alors ce match va-t-il affaiblir selon vous les favoris pour le Brennus? Est-ce qu'il reste les favoris pour le bouclier, Denis?
Je le pense. Je pense que il y a un fait qui est important, c'est le retour de Julien Marchand, qui n'a pas été champion d'Europe, qui verra cœur d'être champion. Il va amener de la fraîcheur, il va amener de l'envie et il va secouer tout le monde. Puis surtout, c'est un leader naturel. Julien Marchand, c'est quelqu'un qui est un symbole dans cette équipe du Stade Toulousain. Ils n'en ont pas eu besoin pour gagner contre La Rochelle, mais je pense que lui, il va amener un élan de fraîcheur qu'ils vont avoir besoin.
Et le plus dur, Pierre, c'est Wilfried, le plus dur, c'est pour La Rochelle, évidemment, parce que il faut digérer la défaite. Là aussi, les corps ont été fatigués. Botia va peut-être être suspendu longuement. Ça va être difficile d'évacuer cette défaite.
Ouais, Pierre, je sais pas ce que t'en penses, mais on a vu de tout ces dernières années. On a vu du Racing qui avait perdu la finale, qui a été sacré à Barcelone.
Il y a 4 clubs qui ont perdu
Toulouse,
qui ont été sacrés après champion de France.
Voilà, du Toulouse qui avait perdu contre le Munster, qui bat Clermont après. Et c'était pareil avec Biarritz en 2006, qui a perdu le Munster, qui a battu Toulouse. Et on a vu les Clermontois s'écrouler aussi après ce genre de finale. Donc
le seul bémol, c'est que La Rochelle va avoir du mal d'accrocher les deux premières places.
Mais peut-être pas s'ils gagnent à Clermont. Et pourquoi pas?
Clermont, ils vont jouer la qualification.
Ils vont jouer à Toulouse avant.
Mais s'ils perdent à Toulouse,
les matchs, on peut pas savoir, Denis.
S'ils ont un match de barrage, ça sera plus compliqué pour eux, compliqué, vu les blessés, vu la fatigue.
On est d'accord.
Pour La Rochelle, il y a deux choses positives à la sortie de ce match. La première, c'est que il y a eu un blessé qui n'est pas titulaire habituel, qui est un très bon joueur, mais qui fait partie de la rotation. Dans le 15 de départ, il n'y a pas eu de gros blessés. Et le match, le fait de le perdre à 14 contre 15, mais d'avoir surrivalisé avec Toulouse pendant presque une heure en infériorité numérique, ça apporte des garanties, notamment devant. On a surrivalisé devant du côté rochelais. Et cette frustration-là d'avoir surrivalisé pendant presque 80 minutes alors qu'on était en infériorité numérique, ça peut être une jolie carotte. C'est pas comme si on avait pris 40 points en se faisant rouler dessus.
Là,
c'est un peu différent.
Il va falloir avoir une explication avec Jules Plisson aussi, je pense.
Oui, pourquoi n'est-il pas entré ? C'est incroyable. Vu la performance de West, justement, c'est inexplicable.
Ça peut se compliquer la situation.
La Rochelle, qui devra donc patienter encore un peu avant d'inscrire une première grande ligne à son palmarès, attente qui sera peut-être de courte durée avec la finale du top 14 dans un mois. En attendant, le MHR, lui, a ramené la coupe à la maison. La Challenge Cup, qui avait déjà passé une année dans l'armoire à trophée du club montpelliérain, c'était il y a 5 ans, l'épilogue d'une saison incroyable durant laquelle le club est relégué, passé par tous les états, hein, moribond cet hiver, aux portes de la relégation. Les voici triomphants et qualifiés pour la prochaine Champions Cup. C'est plus qu'un lot de consolation, hein, d'autant que cette Challenge Cup permet aux montpelliérains de se qualifier pour la Grande Coupe d'Europe la saison prochaine, Wilfried.
Ouais, exactement. C'est génial pour eux de se dire que au mois de janvier-février, ils étaient 13e, rappelez-vous, hein, longtemps. Ils perdaient tous les matchs dans les 5 dernières minutes et que l'année prochaine, déjà, ils normalement, attendez, parce que mathématiquement, c'est pas fait encore. Mais oui, ils ont 9 points d'avance sur le 13e, c'est très bien engagé, ça devrait aller. Mais qu'ils vont jouer la Champions Cup l'année prochaine. Et le président l'a dit, hein, d'une saison complètement ratée, on est passé une saison vraiment réussie. Donc c'est une belle histoire et je le pensais, sans devenir le résultat du match, mais je le pensais que ça pouvait s'écrire comme ça, avec tout ce qu'ils ont vécu, de finir comme ça, puis ils se sont écrits leur histoire et c'est ça qui est beau.
Et chapeau bas donc à cette équipe et à son
Philippe
entraîneur
Saint-André, bien
Philippe
sûr.
Saint-André. On est ravis pour Philippe.
Bravo Philippe.
Bravo, superbe travail et aujourd'hui il est revenu en grâce dans le monde du rugby. Finalement, c'est pas un si mauvais coach que ça.
C'est ce qu'il disait en conférence de presse aujourd'hui.
Ah ouais,
j'étais pas si mauvais peut-être quand j'étais sélectionneur, je suis pas le meilleur aujourd'hui.
Saint-André qui est sur redonner confiance à son groupe et à ses hommes. Parmi eux, Johan Goossen, très souvent absent cette saison, mais qui a retrouvé tout son talent en vendredi pour aller inscrire l'essai de la gagne. Ça valait bien un frelon pour ce drôle de loustique.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Goossen qui quittera Montpellier, le rugby français, d'ici quelques semaines pour entrer chez lui en Afrique du Sud. Épilogue d'un parcours étrange. Julien Landry nous a rejoint. Salut Peyo.
Bonjour messieurs.
Oh là là, il est champion d'Europe, Peyo. Ça, alors là, si on lui avait dit ça au mois de janvier, il n'y aurait pas cru. Hein.
Mais Philippe non plus, je vais vous raconter une anecdote parce qu'il fêtait l'anniversaire de son frère ce week-end à Osgore qui fêtait ses 50 ans. Et quand il a eu au mois de janvier son frère pour lui dire c'est quoi la date le mieux, Philippe lui a dit bon ben les week-ends de finale de Coupe d'Europe, tu peux prévoir, on n'y sera pas. Sauf que ben 4 mois plus tard ils étaient en finale et que du coup Philippe a sacrifié un jour d'anniversaire, mais ça valait le coup de remporter un trophée.
Ouais, la chance c'était le vendredi soir le match pour Montpellier.
C'est ça, exactement.
Déjà, il peut faire le match retour à la maison à Bandol avec son frangin et avec les copains. Alors, parle-nous un peu de ce Johan Goossen, ça, un drôle de loustique. On a du mal à apprécier le personnage, mais c'est quand même un sacré joueur de rugby. Hein.
Ouais, son passage dans l'Hérault restera marqué d'un gros point d'interrogation. Goossen n'a disputé que 35 matchs en 3 saisons à Montpellier. Il faut dire que depuis son arrivée, après son départ rocambolesque du Racing, son corps ne lui a jamais laissé de répit. Entorse de la cheville, entorse du genou, fracture de fatigue au pied, douleur au dos, commotion, comme si ce corps d'athlète n'avait jamais digéré cette longue coupure, 16 mois en tout entre les deux contrats. On n'a jamais revu ce joueur fantastique qui avait aidé le Racing à conquérir le Brennus en 2016 et lui-même avait reconnu en novembre dernier que cette décision n'était sûrement pas la bonne.
C'est du passé, je n'ai pas trop envie d'en parler, mais je vais essayer d'expliquer un petit peu. Je ne pense pas que cette pause était une bonne décision dans ma carrière. Je travaille vraiment dur pour revenir au niveau qui était le mien. J'ai arrêté 16 mois, puis j'ai joué 3 mois avec les Cheetahs avant de venir ici. Maintenant, c'est du passé. J'ai pris des décisions, des mauvaises décisions. Ça arrive à tout le monde. Je ne peux pas le changer. Je dois aller de l'avant, travailler vraiment dur et me concentrer sur le rugby pour revenir au top avec mon club. Et j'y arriverai.
Depuis cette interview, il a encore eu quelques pépins physiques, mais Saint-André a enfin pu compter sur lui depuis 6 semaines. Il vient de disputer 6 matchs en tant que titulaire pour autant de victoires. À Toulouse, où il marque une pénalité importante de 50 mètres, contre La Rochelle, Toulon-Baf et donc Leicester, où il marque l'essai de la victoire. Et le manager de Montpellier, PSA, raconte comment il a remis sur pied son centre sud-africain.
Gousse, je suis venu à l'entretien, je lui dis, tu sais, toi, pour moi, t'es un joueur brillant. Reviens le plus rapidement possible, avec le sourire. Et étonnamment, depuis qu'il est arrivé, lui, à chaque fois qu'il a été titulaire, il n'a pas perdu un match. Après, bon, il a fait des choix. Je lui dis, moi, tes choix, je les respecte, mais j'ai envie que tu finisses bien avec moi et que tu joues pour moi. Et que tu donnes 120%. Et là, il donne 150%. Les grands joueurs, hein, te font gagner des compétitions et Gousse en fait partie.
Ses choix, c'est retourner en Afrique du Sud à la fin de la saison. Il a signé au Blue Bulls, club entraîné par Jack White, le même White qui avait créé ce fameux club de Languedoc à Montpellier. Et avec les départs cet été de Bismarck et Jacques Duplessis, Immelmann, Goossen ou avant Stein et Pinard, une page où MHR va se tourner. Place aux joueurs français, au centre de formation, une politique mise en place par PSA et qui a porté ses fruits vendredi dernier avec ce deuxième sacre européen. Sur les 15 titulaires, 12 étaient français.
Et ben voilà, voilà cette équipe de Montpellier qui retrouve le chemin de la gagne, qui retrouve des joueurs français et qui va peut-être trouver un peu de popularité avec avec ses succès. Et voilà, Goossen, lui, bah, on va lui souhaiter un bon voyage, un bon retour à la maison. C'est vrai que c'est un sacré joueur, mais on a un peu de mal à cerner le personnage. Montpellier qui est pas encore sorti de l'auberge, on le disait, hein, qui va devoir remporter des matchs importants pour espérer rester.
On joue demain déjà.
Avec l'équipe C demain. Ouais. Il va envoyer la même équipe qui était partie au Stade Français avec tous les espoirs.
C'est pas demain qu'ils vont prendre des points sans doute.
Ils vont viser évidemment la réception de Bayonne samedi où ils devraient assurer
juste pour. Pour Goossen, c'est quelqu'un qui a dû être très mal conseillé aussi. Je pense qu'il a fait la partie du Racing pour aller chercher un contrat à Montpellier et s'exiler en Afrique du Sud pour dire je vais revenir chez moi travailler pour
rien. Il vendait des selles de chevaux. C'était pas mal comme boulot.
Peut-être qu'il a pris une mauvaise décision, il fait amende honorable, il a dit c'est une mauvaise décision, mais les mecs qui l'ont conseillé, franchement, c'est...
Pas très mal, effectivement. Ça a gâché son image.
Et puis ses meilleures années.
Et sa carrière.
Ses meilleures années. Il est parti, c'était un joueur extraordinaire, et il est revenu, c'était pur genre de rugby. C'est quand même terrible pour lui. Je suis content qu'il gagne, et malgré le fait que j'accepte pas du tout que la façon dont il s'est comporté, parce que ça a été pas très élégant, mais voilà, il s'excuse et c'est très bien pour lui qu'il puisse rejouer au rugby et être de nouveau un très bon joueur.
Merci messieurs les potos, vous avez été parfaits.
À la semaine prochaine.
Et bah moi je serai pas avec vous.
Pas
hein.
Si
vous
le faites,
qui a
pas
en vacances. Non, je prépare
c'est
le
parti pour
le barbecue.
C'est déjà en vacances.
C'est parti pour le barbecue.
Mais bah oui, derrière, il y a Tour de France et Jeux Olympiques, messieurs.
Il y a Tour de France, il y a Tour de France.
Il va arriver très affûté au Tour de France.
Il nous lâche.
Je vous écouterai avec beaucoup d'intérêt.
Et nous aussi au Tour de France, Christophe, comme chaque année.
Je vous embrasse, les garçons. Ciao, ciao.
Bisous.